Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews histoire de Timeline en partenariat avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles. J'ai le plaisir aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, de recevoir Eve Ruggieri pour son ouvrage « Au cas où je mourrais » chez Flammarion. Alors, dois-je vraiment vous présenter, Eve ? Vous êtes productrice, animatrice, directrice de société, surtout, eh bien, vous êtes la grande prêtresse, j'allais dire, de la musique classique en France. Je suis ravi, vraiment ravi de vous voir. Vous êtes vraiment à l'origine de beaucoup de vocations. Est-ce que vous en avez conscience ?
Oui, parce que je reçois beaucoup de courriers. Et puis surtout, dans la rue, dès que je parle, on ne me reconnaît pas forcément parce que les années sont passées, mais dès que je parle, il y a toujours quelqu'un qui se retourne.
Je connais cette voix.
Voilà, oui, c'est en me disant, ouais. Mais vous n'êtes pas vrai, Thierry. Je dis non, pas du tout.
Pourquoi ce livre, en fait ? Parce que, au cas où je mourrais, mais vous êtes immortelle, Eve.
C'est pour ça, j'ai hésité. Mais normalement, il y aurait dû avoir un point d'interrogation ici. Ah. Mais on m'a dit qu'on ne mettait pas de ponctuation sur les couvertures des livres.
Ah, ces éditeurs.
Ce que je ne savais pas. Parce que ça, en fait, c'est un peu à double lecture. C'est peut-être, je ne mourrai pas, on ne sait jamais. Donc, je voulais que ça reste optimiste. Et en fait, j'adore lire les mémoires. Oui. Parce qu'il y a toujours des... Et ça me passionne. Et donc, j'étais tombée sur une jeune personne au XVIIIe siècle qui devait avoir, je sais pas, 15-16 ans et qui avait commencé ses mémoires comme ça, au cas où je mourrais. Et ça m'avait tellement amusée, cet optimisme,
oui.
qui n'en était pas parce qu'elle était née au moment de la Révolution. Donc, ça pouvait se comprendre d'une manière moins optimiste.
Ça pouvait mal se passer.
Et je m'étais dit, si un jour, je racontais... quelques souvenirs, je prendrai ce titre. Et donc, je l'ai fait. Et parce que mon éditeur, qui est un monsieur extrêmement sympathique, m'a harcelé en me disant, écoute, tu racontes la vie de tout le monde depuis des années et toi, on ne sait rien. Comment ça se fait ? Ben, le voilà qui entre, d'ailleurs.
On l'embrasse.
Et donc, voilà. Je me suis dit, eh bien, jetons-nous à l'eau.
Absolument.
Et j'en ai profité aussi pour évidemment parler de tous ces personnages qui étaient absolument fascinants, que j'ai eu la chance de rencontrer dans l'exercice de mon travail. Et d'autres qui ne sont pas forcément musiciens, mais avec lesquels j'ai gardé des relations très amicales.
Il y a du beau monde dans ce livre, effectivement. Beaucoup d'anecdotes.
Gens, on va dire intéressants.
Oui, il y a beaucoup de gens intéressants. Avec toutes ces années que vous avez pu côtoyer, connaître, etc., est-ce que vous avez observé des changements dans les mentalités du public en termes de musique classique ? Est-ce que les gens sont devenus meilleurs, moins bons ? On est à Versailles, on peut tout dire.
Moi, par principe... Comme Music Zucker, j'avais souhaité qu'il y ait un S à musique, pour ne pas rester strictement dans le cadre de la musique classique. Et ça m'a amené à, par exemple, interviewer Nina Simone,
exact.
Qui est une grande voix du jazz, une américaine, à faire des Music Zucker sur le hip-hop, sur la peinture, sur beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément de la musique classique. Parce que je pense que la culture, c'est un peu... De tout.
Oui, je suis d'accord.
Et pas une seule chose sur laquelle on devient spécialiste parce qu'on n'a plus accès avec tous ceux qui ne sont pas dans cette situation-là. Donc j'ai toujours cherché à rapprocher la musique classique, par exemple de la poésie, de la littérature. Et non, je trouve que ce qui est regrettable, c'est que les chaînes de télévision aient changé. Puisque quand j'ai décidé, après 28 ans de bons et loyaux services, d'arrêter, en tout cas, la télévision, je me suis aperçue, j'avais une émission par semaine, donc 4 émissions par mois de musique classique. Et je me suis aperçue qu'aujourd'hui, il reste 4 émissions par an. Donc, je me suis dit...
Et ce n'est qu'un début.
Je me suis dit... Ouais, je pense que c'est arrivé après l'histoire du cahier des charges, puisqu'ils étaient obligés de faire de la musique par le cahier des charges. Mais à partir du moment où la télévision de service public, qui a été une excellente télévision, parce qu'on avait cette chance d'avoir des gens qui étaient extrêmement bien formés, on avait les meilleurs caméramen, les meilleurs preneurs de son pour la musique, c'est important. Et en fait, c'était des gens qui étaient très motivés par ce qu'ils faisaient. Mais il y a quoi, je dirais, une vingtaine d'années, La télévision s'est dit, pour économiser un peu quelque argent, que c'était bien de s'ouvrir vers les productions privées. Et donc, moi, je suis passée de 4 caméras, 2 preneurs de son formidables, épatants, qui avaient un talent fou. Et chacun faisait ça avec une passion incroyable. Avec une très gentille jeune fille, très dynamique, qui avait une lampe sur le front et qui enregistrait avec un truc comme ça. Ça a beaucoup diminué, d'ailleurs, depuis mes débuts. Et le résultat était que j'ai interviewé comme ça Nathalie Dessay aux États-Unis. Elle chantait à New York et j'étais allée l'interviewer. Et on a regardé les rushs. Et Nathalie a dit, je crois qu'il vaut mieux pas la diffuser parce qu'on va faire peur aux enfants. On avait été filmé avec cette lampe comme ça, donc deux fantômes. Mais donc je me suis dit, pas pour des histoires d'ailleurs de représentation du visage, mais surtout parce que la qualité était effroyable.
Ouais, bien sûr.
Le son pour la musique classique, c'est primordial. Et là, c'était de très, très mauvaise qualité. Je me suis dit, j'ai eu une carrière pendant 25 ans qui était vraiment un bonheur de tous les jours. Donc, je ne vais pas me retrouver dans des conditions épouvantables à présenter un travail que j'ai honte de signer.
Ouais, c'est ça le plus
important. Et donc, j'ai arrêté. Voilà.
Est-ce que les Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfin Apple Time Music,
alors,
etc.
Déjà,
tout
je
ne
sais
ça
pas
fait...
ce que ça veut dire. Spotify.
est-ce que tous ces majors-là ont fait du mal à la musique ou est-ce que...
Mais je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois que la télévision de service public aurait dû... justement se préserver. Et moi, je crois que quand on fait les choses le mieux possible, y a un vrai public pour ça. Oui. Parce que ce n'était pas une question pour le public de payer plus. La redevance est restée la même, mais il y avait un choix à faire qu'ils n'ont pas voulu faire. Et ils se sont de plus en plus tournés vers les émissions qui sont des jeux en même temps. Moi, parfois, il m'arrive de chercher pendant une heure un programme à regarder et finalement me dire, tiens, je vais plutôt lire ce soir parce que je ne trouve rien. Donc, il y a une multiplicité de chaînes et il y a encore, Dieu merci, des chaînes comme Arte, comme La Cinquième. Il y a quelques très bonnes chaînes, et heureusement. Mais même sur... j'allais dire mes chaînes à moi, j'ai dirigé France 2. Ouais. Et même sur France 2, il y a des soirées où je me dis...
Il faut chercher.
Voilà.
Pour du temps de cerveau disponible.
Oui.
Je suis d'accord. Sans trop dévoiler le livre, parce qu'il faut lire le livre absolument, on ne sait pas vraiment comment vous avez commencé. Qu'est-ce qui vous a... Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais me lancer dans la musique et je vais être un passeur comme ça.
Vous voulez dire à la télévision.
Oui, ouais,
mais j'avais
les
grandi là-dedans. Puisque mon père était à la fois contrebassiste, il avait un orchestre de musique de chambre et maman était violoniste. Donc moi, j'ai commencé le piano, j'avais 4 ans.
Évidemment.
Et puis j'ai fait parallèlement, mon père était nommé à Nice avec son orchestre. Et donc j'ai quitté Limoges, je suis née pour arriver à Nice, qui n'était pas déplaisant, par parenthèse, parce que passer du climat limougeau au climat méditerranéen, c'était plutôt un plus. Et je me suis partagée jusqu'au bac, jusqu'à 17 ans, entre le lycée et le conservatoire. Et là, je me suis dit, il va falloir choisir. Et j'ai dû me résigner parce que j'ai une main très étroite. Et je ne peux attraper, par exemple, l'octave que sur le rebord des touches, vous voyez. Et moi, je rêvais de jouer le grand répertoire russe, Rachmaninov, Tchaïkovski, etc. Et Liszt, et j'avais absolument pas la main pour tout ça. Et je me suis dit, je vais pas donner des leçons pour écouter le Gai Laboureur et l'être à Élise massacré. Et donc j'ai fait 2 ans de dentaire dans moment de dépression profond. Parce qu'on avait un ami qui était dentiste à Limoges et qui voulait laisser son cabinet. Il m'avait dit, écoute, tu verras, c'est pas très difficile. Ça a commencé par la dissection d'une grenouille. Et la mienne, on se demande pourquoi, pour être dentiste, il faut disséquer une grenouille. Mais à l'époque, ça se faisait.
Pas voulu faire de
commentaires. Et la malheureuse victime avait été mal anesthésiée. Donc j'ai piqué avec précaution, Dieu merci, mon scalpel, et elle a remué les pattes. Et je me suis dit, je ne suis pas faite pour ça. Ce n'est pas du tout mon truc. Et donc, j'ai passé un concours et je suis rentrée à la radio. Et j'ai mis très longtemps avant de revenir vers la musique classique. Parce que j'ai d'abord été sur France Inter. Enfin, j'ai commencé à faire des émissions. Après, j'ai raconté l'histoire donc sur, j'en parlais avec Franck Ferrand tout à l'heure, qui vient demain à Lyon, on va se rater. Et après, j'ai commencé à avoir mes propres émissions. Et puis la télévision m'a appelée. Et j'ai eu cette chance quand même formidable de n'avoir eu finalement que trois patrons, c'est-à-dire Pierre Vigne sur France Inter, qui était un très, très grand patron de radio. Ensuite, Hélène Victor, qui était une femme exceptionnelle pour la télévision. Et Pierre Desgroupes pour la musique classique. Donc, c'était difficile de faire mieux. Et voilà.
Ça respire la culture, en fait, hein, quand on entend ces noms-là, c'est vrai.
J'ai arrêté la télévision. Je me suis dit, je vais me reposer un peu, écrire un peu plus. Et j'ai été appelée par Radio Classique, qui m'ont dit, mais pas du tout, on vous attend. 11 ans de plus. J'avais signé un contrat. J'avais tellement peu envie de refaire de la radio. J'en avais déjà fait 9 ans sur France Inter. Donc, j'ai signé un contrat d'un an non renouvelable. Et en fait, je suis restée 11 ans.
Vous êtes avec Franck maintenant.
Et voilà, Franck m'a succédé. Voilà,
effectivement.
Je l'ai conseillé d'ailleurs vivement parce qu'il venait d'arrêter Europe 1. Et je m'en réjouis parce qu'il est vraiment très, très bien.
Oui, ça a l'air en tout cas.
Je suis fière de mon fils adoptif.
Je pense qu'on aime tous Franck Ferrand, c'est vrai. Parmi tous les projets que vous avez pu faire, quels sont les plus mémorables, ceux qui vous ont laissé les meilleurs souvenirs?
Oh, c'est les opéras. Ouais. Oui. Parce que ça, monter un opéra, c'est d'abord c'est une passion 24 heures sur 24, mais c'est surtout avoir la responsabilité de 140, 150 personnes.
Ouais, c'est énorme.
Tous les jours, à 2 mois de répétition avant, le festival après, et diriger. Bon, j'avais Dieu merci des assistants, mais quand je dis des, j'en avais vraiment trois, un qui s'occupait juste de ce qui était les hôtels pour les chanteurs, la location des voitures, les restaurants, etc. Et l'autre qui s'occupait plus particulièrement des chanteurs, c'est-à-dire des plannings des chanteurs. J'avais un régisseur extraordinaire qui était à la télévision, qui m'a suivi, qui est retourné, là, qui dirige le département culture et qui avait débuté avec moi. C'était le premier amoureux de ma fille. Donc, j'aimais Brice.
C'est pas toujours des
bons souvenirs. Et puis le troisième qui travaillait avec moi sur le choix des chanteurs, les auditions. Mm-hmm. Parce que monter un opéra, c'est d'abord auditionner des voix. Oui. Et pour arriver à trouver la meilleure, parfois il y a des étrangers formidables, mais qui ne parlent pas un mot de français, si c'est pour Carmen ou Werther. C'est fini. Donc c'est très compliqué. Et j'ai eu cette chance de faire débuter Bartoli, Roberto Alagna. Je vois que Sonia Yantcheva, qui a chanté sa première Traviata avec moi, sera à Noël à Versailles. Allez-y, elle est exceptionnelle. Donc j'ai beaucoup aujourd'hui, de grands chanteurs qui ont débuté chez moi. Alors donc ça, c'est une satisfaction.
J'imagine. Justement, ceux qui vous ont le plus troublé ou le plus... vous avez senti quelque chose de différent?
Il y en a deux, vraiment. Il y a Pavarotti. Ouais. Parce que je n'ai jamais entendu une voix naturelle aussi magnifique. Carlos Kleiber, le chef d'orchestre, qui était le fils d'Arich, et qui était son père, qui s'appelait Calbert, Kleiber aussi, disait, quand Pavarotti arrive, le soleil entre là où il passe. Wow. Et c'était tellement vrai. C'était une voix, la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, c'est pas vrai. Et une voix comme ça, parfaitement naturelle. Il ne lisait pas la musique, en fait, très peu. Donc, il prenait tout à l'oreille comme ça. Et puis, Jesse Norman. Mmh. Magnifique voix. Pour moi, la plus belle voix du XXe siècle. Ouais. Toutes catégories confondues. Une voix incroyable, une présence incroyable. Une intensité dans la manière dont elle... J'ai eu cette chance d'assister à un disque qui était le dernier de Karajan. J'ai travaillé 10 ans avec lui, donc ça aussi, ça vous apprend.
Ça marque, oui.
Ça marque et ça vous apprend bien des choses. Et il a dirigé, elle chantait La mort d'Isolde. Et c'était quelque chose... Parce qu'ils respiraient en même temps tous les deux. Je voyais la poitrine de Karajan qui se soulevait et la sienne aussi, comme ça. Ils se regardaient de temps en temps. Et c'était bouleversant parce que Karajan était très malade et il avait tenu à diriger quand même. Et à la fin de l'enregistrement, je coproduisais ça avec Peter Galb, qui est aujourd'hui le directeur du Metropolitan Opera à New York. Et Karajan s'est penché vers lui et lui a dit à l'oreille, mais moi j'étais très proche, donc j'ai entendu. Peter, c'est le portrait d'un homme mort que vous venez de faire là. Et ça passait tellement dans ce qu'il chantait que c'était derrière la vitre, il y avait les techniciens qui en voient d'autres hein, dans les grandes maisons d'enregistrement, qui avaient les larmes aux yeux. C'était incroyable. La musique a ce pouvoir de nous faire ressentir à tous, au même moment, quelle que soit la classe sociale, la couleur de la peau, la religion, en fait, tout ce que vous voulez, la même émotion.
Oui, je suis d'accord.
Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, la musique et de tous les beaux-arts, la peinture, il y a un accès. Mmh. Il faut connaître un peu. Je ne parle pas de la peinture contemporaine, où là, je n'ai pas trouvé l'accès dans l'ensemble.
Je cherche toujours.
Mais la musique, il y a ça quand même. Mmh. La lecture, il faut savoir lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Moi, je me rappelle, j'avais fait à mes tout débuts un petit concert à Martigues. Et il y a un monsieur qui est venu me voir 5 ans après. Je faisais quelque chose à Aix-en-Provence. Et qui m'a dit, je voulais vous dire, j'étais à votre concert à Aix, où je suis cordonnier. Eh ben, venez boire un café chez moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je me suis dit, bon, j'y suis allée. Et je suis arrivée devant tout un mur qui était rempli de... C'était des CD à l'époque. Il avait racheté, il avait acheté Beethoven, il avait acheté Bach, Mozart, tout ce qui était instrumentaliste ou vocal, lyrique. Enfin, il avait fait... Il m'a dit, je vis là-dedans, vous avez changé ma vie. J'ai dit, vous êtes toujours cordonnier. Il m'a dit, oui.
Ça change pas. C'est magnifique, c'est extraordinaire.
À Martigues.
Ça, c'est génial.
Donc, de temps en temps, je me dis, il faudrait que j'aille le voir.
On parle beaucoup, alors il y a le grand mot aujourd'hui, c'est diversité, il y a aussi la diversité musicale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le classique peut contribuer, je vais y arriver, à la diversité musicale? Est-ce que, quand on voit par exemple le Divertimento, je ne sais pas si vous connaissez l'orchestre Divertimento.
Oui, oui.
Est-ce que ça peut amener cette diversité? Parce que
moi, je crois qu'il faut tout essayer de toute façon. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je trouve que nous sommes une civilisation qui est en panne. C'est-à-dire que la musique contemporaine, il y en a, mais personne n'y va.
Oui.
Parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer. La peinture contemporaine, il y a quelques très grands artistes. Pour moi, ça s'arrête à Bacon, parce qu'après, c'est compliqué. Mais, je veux dire, il y a un renouveau. On voit bien, quand on voit un caniche gonflable de Jeff Koons, on se dit bien qu'il n'y a pas d'inspiration là-dedans. Hein.
Il n'y en a pas eu un à Versailles, si, il me semble qu'il y a eu une horreur.
Il y a tout eu à Versailles. Il y a eu ce horrible tuyau intitulé Le vagin de la reine, avec une élégance qui ne nous aura pas échappé.
Absolument.
Et quand on lui a dit, vous ne pouvez pas trouver autre chose, il a dit, si on pourrait appeler ça finalement le trou de la reine. C'était encore mieux.
De mieux en mieux.
Ouais, donc là, l'inspiration, ça me paraît court quand même. Donc voilà, mais c'est... Alors, la danse a formidablement échappé à ça à travers le hip-hop.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'avais monté, je ne sais plus dans quel c'est Rossini, il y a un entracte, une musique d'entracte qui imite une tempête. Et je crois que c'est ça. Ou Vivaldi, peut-être Vivaldi, peu importe. Et j'avais repéré, je travaillais à l'époque avec l'Opéra de Lyon, et le directeur, qui était un type épatant, avait donné l'autorisation à des jeunes de banlieue de venir s'entraîner pour le hip-hop sur le parvis de l'Opéra. Et je les avais vus danser, je m'avais dit, mais ils sont incroyables ces gamins, ils avaient entre 15-17 ans maximum. Et je m'étais rappelé d'un qui était japonais, je crois. Je me suis dit, je vais les engager. Et c'était pour une grande soirée à Versailles, organisée par Mme Giscard d'Estaing pour sa fondation. Et Mme Giscard d'Estaing, qui est toujours vivante, Dieu merci, avec laquelle je m'entendais très bien, mais qui me battait dans la catégorie du trac. Moi, déjà, ce n'est pas brillant, mais alors elle, qui a déjà une voix grave, quand elle a le trac, on dirait une basse russe, tellement ça descend bas. Et elle était à côté de moi et elle me dit, elle les avait vus arriver en jean à trous avec des marcelles et des blousons sur le dos. Elle me dit, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, ils dansent tout à l'heure pendant l'opéra. Grand silence. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, vous allez voir, c'est très bien. Faites-moi confiance, ça fait 10 ans que je fais votre soirée. Et je voyais qu'elle n'était pas enthousiasmée du tout. Alors, j'avais dit, bon, côté, essayer d'être un petit peu quand même les jeans troués, tout le monde est en robe blanche, tout ça, ce qu'ils avaient fait rire. Alors, ils étaient arrivés finalement avec leurs jeans pas troués, qu'ils avaient apportés de chez eux. Ils m'avaient dit, oui, ils les avaient achetés pas cher, mais ils les avaient quand même. Et puis, on voit toujours leur petit maillot. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait un pas qui s'appelle, je crois, le Smurf. C'est-à-dire qu'on glisse.
Ah oui.
comme ça sur scène, comme si on avançait poussé par le vent. Mmh. Les gens étaient mais tétanisés dans la salle. Parce que ces soirées, c'est très élégant, tout ça. Souvent, c'est un peu ennuyeux. Mmh. Et donc, j'essayais de trouver des choses. J'avais fait chanter Didi Bridgewater, la chanteuse de jazz, avec une soprano très classique. Mmh. Et ça avait fait un tabac. Et au moment de passer à table, Anémone me dit « Bon, ben, je vais aller leur dire au revoir. Ben, » J'ai dit « Ben non, parce que je crois qu'ils ont envie de prendre un petit quelque chose. » Elle me dit « Ah, mais je n'avais pas prévu de table. Vous croyez ?» J'ai dit « Mais je suis sûre. Ben, je suis sûre qu'ils ont faim. » Et je voyais qu'elle était morte d'inquiétude. Je me mets à sa place. Elle n'avait jamais vu des gens comme ça. Ils étaient trois. Et j'ai dit « Je vais rentrer avec eux. Vous inquiétez pas. » Et je grignoterai un morceau avec eux. Et quand ils sont rentrés, toute la salle s'est levée pour les applaudir.
Ah, c'est génial.
Je me suis dit, quand même, et ça avait duré quoi ? 5 minutes, quoi, disons 7 minutes de danse comme ça, mais ça allait tellement bien avec la musique.
Formidable.
Donc quand on peut, d'une manière ou d'une autre, attirer un public qui n'ose pas la musique classique, ça fait encore un peu peur. On sait, enfin, si, moi, je ne sais pas quoi, mais je ne le dirai pas, ce n'est pas grave.
Si, dites-le,
non.
Dites-le.
Non, mais
on est entre nous, ça ne sortira pas.
Parce que souvent, les artistes, et je sais de quoi je parle, mes parents étaient comme ça, choisissent la musique qu'ils aiment, eux.
Ah, oui.
Et c'est souvent des choses difficiles d'accès. Dans la musique classique, il y a des choses très faciles d'accès. Vous prenez n'importe quelle pièce de Vivaldi ou de Rossini, les gens sont enchantés. Il n'y a pas que ça. Moi, Bach, il swing. Vraiment, il y a des choses. Le concerto italien de Bach, ça enchante tout le monde. Mais ils vont choisir une pièce un peu difficile, de la musique de chambre, par exemple. Qui est vraiment la musique de chambre, c'est 4 musiciens ou 5 ou 6 ou 7, mais qui se parlent entre eux. Mmh. Et il y a quelque chose qui traverse difficilement pour aller vers le public. Et voilà, je pense qu'il y a des efforts à faire, oui.
Comment est-ce qu'on peut démocratiser ? Vous n'auriez pas des idées ?
J'en ai plein, mais maintenant,
Alors,
j'ai décidé.
On vous attend.
C'est une très mauvaise nouvelle pour mon éditeur. Je vais continuer à écrire. Pardon, Guillaume.
Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Evry Djiri, au cas où je mourrai.
J'ai des festivals. Là, je pars demain pour le festival de Saint-Malo.
Bon, c'est que ça fonctionne bien. Vous avez peut-être des questions dans le public. Je vais peut-être m'avancer. Avec le micro, je vais me pousser.
Est-ce qu'il y a des questions ? Un peu de courage.
La technologie, comment la technologie pourrait aider à démocratiser, aborder, commencer ?
J'ai pas de réponse parce que c'est un domaine que je connais pas du tout. Il faudrait demander ça, il y a des spécialistes de la musique. Par exemple, ils ont fait d'énormes progrès dans la variété, dans ce que j'appelle moi la variété,
oui.
Ça a d'autres noms aujourd'hui, mais ils ont fait de gros progrès. Dans le classique, encore, c'est difficile parce que nous d'abord, on est très regardant sur la justesse.
Bien sûr.
Donc, pour peu que vous ayez une harpe qu'il faut réaccorder toutes les 3 minutes 30, si on veut que ce soit vraiment juste, j'exagère un peu, mais c'est ça. Donc, c'est très compliqué. La musique classique, au niveau de l'audition et de la perception, c'est vraiment compliqué.
C'est pas simple. Comment vous réagissez-vous quand vous entendez qu'une intelligence artificielle peut faire de la musique sans humain ?
Je pense que si on modifie en même temps les humains, probablement ils trouveront ça très bien. Mais pour les humains au début, la musique, ça va être difficile, certainement, pour les gens qui s'intéressent au classique.
Effectivement.
Mais voilà.
Les grands défis, à votre avis, les grands défis à venir, comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous avez une idée ?
En ce moment, entre ce qui se passe, toutes ces guerres, dans le monde entier, je ne suis pas très optimiste, pour dire la vérité. Je me rappelle j'avais accompagné Arthur Rubinstein à Jérusalem. Et il avait voulu visiter la Tour de David. Nous, on avait fait un concert avec lui. Et il était monté tout à fait en haut de la tour où on surplombe Jérusalem, qui est une ville absolument magnifique, que j'adore. Il était là et il regardait tout ça. Et d'un seul coup, il a dit « Quand j'y repense, Jésus a voulu prêcher l'amitié entre les hommes. Il a été crucifié. Le pasteur Martin Luther King a voulu lutter contre le racisme. Il a été assassiné. Yitzhak Rabin a voulu se rapprocher d'Arafat. Il a été assassiné. » Et il a pris un grand soupir et il a dit « Il y a de ça 20 ans. » Tout ça ne présage rien pour moi des années à venir. Eh bien, on y est.
C'est pas faux, ceci dit, tous les grands hommes ou tous les grands
soldats. La barbarie s'est installée sur le monde sous forme de guerre. Ouais. Dans un grand nombre de pays, sous forme d'assassinats misérables de gamins entre eux dans les banlieues. Enfin, c'est tellement triste.
Oui. C'est...
Donc, je ne suis pas très optimiste.
Comme on dit très, très vulgairement, c'est un monde de merde.
Mais mon petit-fils,
mais on peut faire des
choses. Qui a 14 ans, lui, est très optimiste. Donc, je me dis que sa génération va peut-être sauver ce qui reste de la nôtre.
Justement, comment on peut préserver, allez, dernière question, comment on peut préserver cet héritage culturel? Comment vous verriez la préservation?
Moi, je crois qu'il faut aller vers les gens. Je n'en connais pas d'autre manière. Ouais. Je suis allée dans des banlieues pourries. Je me rappelle, une fois, j'étais allée dans une petite banlieue de Chartres qui était vraiment délaissée, abandonnée. Et le proviseur m'appelle, il me dit, écoutez, j'en reviens pas. Ils sont battus pour aller vous écouter. Je suis tellement content. Puis deux, trois jours après, il rappelle, il me dit... ils sont beaucoup moins nombreux parce qu'ils vous avaient confondu avec Ève. Il y a une chanteuse qui s'appelle Ève quelque chose. C'est Evangélie.
Ah oui, voilà. D'accord.
Ils vous avaient confondu avec Evangélie. Donc je me suis retrouvée devant six ou sept gamins. Et je suis restée. Et j'y suis allée 3 ans de suite. Et la dernière année, le proviseur était très angoissé. Il me dit, ils vous ont préparé une surprise. J'espère que, si vous voulez, je peux me renseigner. J'ai dit non, laissez. Et en fait, ils avaient monté un petit orchestre avec leurs instruments à eux pour me l'offrir. Ils savaient que je partais et ils m'avaient fait un petit concert rien que pour moi. Moi, je pleurais comme une madeleine. Je pleure tout le temps, d'ailleurs, dans ces cas-là.
Oui, c'est vrai qu'on a ça beaucoup.
Je l'ai dit dans le livre.
Oui, c'est vrai, on l'a beaucoup. Vous êtes formidable, Evrudiri. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Je pense qu'on peut quand même l'applaudir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre, Au cas où je mourrais, chez Flammarion. Nous, on se retrouve tous les mardis pour un nouvel invité.
C'est drôle.
Jeudi en direct.
C'est drôle. Je pense aussi qu'on peut lutter en étant, en propageant la bonne humeur, parce qu'il faut.
Merci, Ève.